Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h48 sur la Première. Bon mercredi matin avec nous tout de suite l'invité de la matinale et Daniel Velter qui vient de nous rejoindre. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Ce matin nous recevons Michel Hoffmann, le chef de la défense.
Oui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le patron de l'armée belge depuis le mois de juillet 2020 et forcément il suit la situation de très très près. Alors quel regard porte-t-il sur le conflit, sur la stratégie russe, la contre-attaque ukrainienne? Quelle issue en attendre? Et puis on le sait, l'armée belge a donc décidé d'envoyer 300 hommes en Roumanie en appui aux forces de l'OTAN. Quelle sera leur mission? Que vont-ils y faire? Et puis encore, l'armée recrute. Est-ce le bon moment? Bref, beaucoup de questions pour le chef des armées.
Et c'est donc Michel Hoffmann qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Merci d'être de la partie dans cette matinale ce matin. Vous avez toujours dit, il ne faut pas sous-estimer la Russie. On l'a sous-estimé?
Je ne pense pas qu'on l'a sous-estimé parce qu'il y a, malgré les événements et peut-être la progression un tout petit peu plus lente qu'anticipée, il y a toujours énormément de capacités en réserve en Russie pour frapper très très fort dans les jours qui viennent.
Vous êtes le patron de la défense, avant cela aussi et surtout un homme de terrain. Alors ce matin, après 7 jours de guerre, quelle est votre grille d'analyse par rapport aux derniers événements de la nuit? Rien n'est encore joué?
Rien n'est encore joué, mais on voit tout de même une certaine obstination, persévérance, obstination de vraiment capturer les points clés en Ukraine, Charkov, Kiev naturellement, et les ports de Mariupol et Odessa probablement bientôt.
Quelles sont les principales menaces?
Elles viennent de tous les côtés. Les principales menaces, naturellement, en Russie, c'est l'utilisation de tous ces missiles de croisière de longue portée qui peuvent appuyer de très très loin, à très longue distance, les actions sur le terrain, ce qui induit naturellement énormément de victimes, de pertes humaines, tant chez les civils que chez les militaires.
Il y a aussi cette menace nucléaire que vous prenez très au sérieux.
La menace nucléaire est quelque chose dont on tient compte, naturellement, parce qu'on ne l'exprime pas comme ça, innocemment, donc il faut certainement en tenir compte. Et elle a été répétée, en plus, dans un autre contexte, par M. Lavrov également.
Hier, l'armée russe invitait les civils à quitter Kiev et annonçait des frappes avec des armes de haute précision. Quand l'armée lance ce genre d'invitation, la ville doit se préparer à un assaut, c'est imminent?
Mais ça doit probablement être imminent, en effet. Mais on voit tout de même que la population à Kiev est très déterminée à se défendre. C'est quelque chose qui est très louable, naturellement, et nous espérons que ça portera ses fruits, naturellement. Mais il y a encore, en effet, beaucoup de puissance de feu qui est en place à partir de la Russie. Il faut certainement en être conscient.
Alors pourtant, selon le Pentagone, l'avancée russe est au point mort. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de carburant, de nourriture? Ou alors est-ce que les Russes sont en train de repenser leur stratégie?
Je pense qu'il faut toujours penser qu'ils revoient les stratégies. La progression qu'ils ont eue n'a pas été aussi rapide qu'ils ne l'escomptaient, ça c'est pratiquement certain. Ils ont sous-estimé probablement toute la chaîne, l'appui logistique qu'ils doivent mettre en place pour appuyer de telles opérations. Ça c'est quelque chose qu'ils ont probablement sous-estimé. Ils ont peut-être aussi sous-estimé la résistance ukrainienne, tant de l'armée que de la population, l'intelligence aussi de cette résistance, des aéroports ou des pistes d'atterrissage et de décollage qui ont été intelligemment bloquées par les Ukrainiens autour de Kiev. Et peut-être que les Russes ont également sous-estimé la cohésion internationale et l'unité de pensée et la volonté de la communauté internationale de stopper cette atrocité, en fin de compte.
Mais vous dites que Poutine ne s'attendait pas à une telle résistance de la part des Ukrainiens. Est-ce que ça pourrait le radicaliser?
Il faut faire très attention parce que on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Monsieur Poutine, c'est un fait. Il y a 10 jours, lorsqu'on venait avec les plans de campagne, tout le monde se disait « il ne va pas faire ça ». Après tous les efforts diplomatiques qui ont été mis en place, il a starté cette opération de très grande envergure. Bon, maintenant, je ne spéculerai pas sur les intentions de Monsieur Poutine par rapport à la suite. Je pense que les événements dans le nord-est à Charkov, autour de Charkov, démontre très très bien qu'il continue toujours pour le moment sur la ligne qu'il avait décidée.
Est-ce que cette offensive russe va durer ?
Elle peut encore durer quelques jours, voire quelques semaines, en effet.
Pourtant, les Russes ont besoin d'une victoire rapide.
En effet, mais c'est ce qu'ils recherchaient, et je pense qu'au plus le temps passe, au plus ils se retrouveront dans une situation isolée, probablement sur le terrain, mais certainement au niveau international, au niveau politique.
Alors je rappelle les forces en présence, les Russes c'est 190 000 soldats, les Ukrainiens 205 000 soldats, mais la grosse différence c'est l'équipement, c'est ça?
Oui, nous tenons compte d'un rapport de force de 1 à 7 généralement, en nombre d'avions, en nombre de chars, en nombre de canons, de missiles certainement également. Il y a également naturellement la modernité des équipements russes par rapport à l'armée ukrainienne qui est en train de se transformer également. Et tout ça fait que, c'est un rapport de force largement en faveur des Russes naturellement. Et ils pensaient peut-être à cause de ça ou grâce à ça que ce serait pratiquement une balade jusqu'à Kiev et jusqu'au Dniepr.
Quels sont les principaux atouts des Ukrainiens, cette force de résister actuellement?
Actuellement, je pense que leur principal atout, c'est leur force de résistance et c'est le soutien moral et également, naturellement, concret également, qu'ils reçoivent de la communauté internationale en général.
Les Russes ont également développé une série de systèmes d'armes qui pourraient perturber nos propres opérations, c'est-à-dire...
Ils peuvent très très bien. Tout d'abord, ils ont en place tout un système de défense antiaérienne qui suit leur frontière occidentale et qui leur permet de limiter notre liberté de mouvement, principalement dans le domaine aérien, mais également en mer et à terre. Et du fait de cette menace, naturellement, notre liberté d'action s'en voit limitée, où on doit tenir compte de certains risques lorsque, éventuellement, nous entreprenerions certaines actions.
Il y a aussi l'autre front, les cyberattaques. Alors, vendredi dernier, tous les employés de la Défense ont reçu un mail pour rester vigilants par rapport à ce risque.
Je pense que non seulement tous les militaires et les civils de la Défense ont reçu ce mail, mais je pense que c'est dans toute la société que tout le monde doit être très très vigilant par rapport à ce qui se passe dans le monde cyber.
Les Russes ont aussi ces mercenaires du groupe Wagner. On en parle beaucoup ces derniers temps. Ils seraient chargés de tuer le président ukrainien. C'est aussi une vraie menace? Ça peut faire la différence?
D'abord, je pense que c'est plausible. Qu'ils ont la capacité de le faire également, et que voilà, il faut tenir compte également de cette option. Je suis sûr aussi que l'entourage de Monsieur Zelensky en tient compte.
Et quelle est la stratégie russe? C'est faire table rase.
L'objectif du régime russe, c'est de changer de régime à Kiev de manière à avoir, un nouveau vassal, ou d'augmenter ou d'élargir, d'épandre sa zone d'influence, comme ils l'ont naturellement en Biélorussie, et comme ils l'espèrent en Ukraine et peut-être d'autres pays par après.
Malgré des pourparlers, c'est l'escalade. Un cessez-le-feu semble complètement utopique maintenant.
Je pense que pour avoir un cessez-le-feu, il faut avoir une volonté des deux côtés. Et je ne pense vraiment pas que du côté russe, actuellement, il y ait une volonté de cesser le feu, parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont dans une position avantageuse.
Il y a 300 militaires belges qui vont prendre la direction de la Roumanie dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN. Que vont-ils y faire pratiquement ?
En fait, la mission générique, c'est de renforcer le dispositif de dissuasion de l'OTAN par rapport à la Russie. C'est un dispositif qui court des pays baltes jusque dans le sud, dans les pays baltes et en Pologne. C'est un dispositif pour le moment qui était permanent, où nous aussi, par des rotations des forces armées des pays de l'OTAN, ce dispositif était équipé. Maintenant, nous mettons en place un dispositif similaire pour les pays du sud, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. Et voilà, nous assistons les forces armées roumaines à mettre en place ce battle group.
Quand ces militaires belges vont-ils partir?
Dans les prochains jours.
On ne peut pas savoir plus précisément quand.
En fait, nous vivons dans une société d'information et de désinformation. Tout ce qui est fait et dit est interprété d'une manière ou d'une autre, ou transformé. Et certainement, ce que nous disons est lu et vu et entendu par les services russes, naturellement, et utilisé à des fins probablement de propagande en interne. Donc, on essaye aussi de respecter, d'être discret par rapport à ce genre d'information.
Ils sont en train de nous écouter maintenant.
Oh, certainement.
Hier à Marchand-Famène, on vous a senti très proche de vos troupes. Cette mission, c'est important pour la crédibilité de la Belgique au sein de l'OTAN ?
C'est important pour la crédibilité de la Belgique, c'est important pour la crédibilité de la défense. Nous sommes souvent, quelquefois, présentés ou de manière un peu moins positive dans les médias, mais en fin de compte, nous répondons présents. Nous avions un engagement vis-à-vis de l'OTAN par rapport à cette force de réaction rapide. Et voilà, à 5 jours de préavis, nous sommes prêts à partir avec une unité qui est équipée, entraînée, avec du personnel motivé. Et voilà, qui est prêt à partir.
Jamais un militaire belge n'ira se battre sur le sol ukrainien.
Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pour ma part, pour le moment, pas du tout dans le mandat de ces militaires, dans les conditions actuelles. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que des forces de l'OTAN se retrouvent engagées en Ukraine contre les Russes.
Pourquoi ? Mais donc, ce n'est pas possible, une présence belge.
De toute façon, dans le cadre et dans le mandat, la mission actuelle, c'est tout à fait exclu. Mais voilà, on ne sait pas comment la situation en Ukraine va évoluer. Et l'avenir nous le dira, mais...
Et encore un mot, on est face à quel type de guerre ? C'est une guerre conventionnelle ?
C'est une guerre globale hybride qui est en cours déjà depuis des années, et c'est une guerre conventionnelle sur le terrain, avec malheureusement énormément de victimes.
Qui pourrait déboucher sur une guerre mondiale ?
Théoriquement, oui, on peut en effet imaginer que sous certains scénarios, ça dégénère totalement.
Michel Hoffmann, merci d'avoir été notre invité ce matin en direct sur la première. Bonne journée à vous.
Je vous en prie, merci, vous aussi.
Soyez les bienvenus sur la première, matin première, jusqu'à